montagne à soi. Au printemps de 1213, par une de ces inspirations qui le guidaient si souvent, François partit de Spolète pour se rendre en Romagne avec frère Léon. En chemin, il s'arrêta au pied du château de Montefeltro, où se donnait une fête agrémentée d'un tournoi en l'honneur d'un des comtes de la famille qu'on armait chevalier. « Allons à cette fête, » dit François, « car avec l'aide de Dieu, nous y ferons quelque bien spirituel. » Voilà une intention dont on ne peut douter. Mais ce n'est pas en diminuer la valeur que de voir aux yeux de François un attrait supplémentaire dans ce mot de chevalier. Car jusqu'à la fin de ses jours, il devait porter l'armure imaginaire de ses rêves juvéniles. Aussi, une célébration comme il s'en faisait au château était quelque chose qu'il ne fallait pas manquer. Comme si le Seigneur n'y avait pas songé. Un banquet se donnait dans la grande cour, réunissant une foule de gentilshommes. Cela devait être aussi brillant que bruyant. François n'hésita pas. Il entra, gagna la place, lieu des réjouissances, et pour mieux se faire voir de tout ce beau monde, grimpa sur un muret. On imagine les seigneurs, grands et petits, voyant tout à coup ce mendiant juché sur cette maçonnerie comme sur une plateforme et donnant de la voix. Une belle voix, du reste, claire et haute, afin de les haranguer, de leur parler des martyrs et de tous les saints qui ont souffert pour l'amour du Christ. Si simple était sa parole, et si vigoureuse, qu'ils écoutèrent, et que l'émotion les gagna. Dans une âme de ce temps-là, certains accents trouvaient toujours un écho. Lorsque François se tut, un homme alla vers lui et le prit à part. Il s'agissait d'un personnage très considérable par son rang et sa richesse, Messire Orlando di Chiusi. « Frère, je voudrais m'entretenir avec toi du salut de mon âme. » À cette demande bouleversante, François fit une réponse où paraît toute la courtoisie du Moyen-Âge et d'un gentilhomme inné. « Cela me plaît beaucoup. Mais va et fais honneur à tes amis qui t'ont invité. » Et après le dîner, nous parlerons tant qu'il te plaira. » Avec une humilité parfaite, le grand seigneur obéit au mendiant. Puis, le festin fini, retourna vers François et lui confia son désir de vie parfaite. Et François lui fit comprendre que le monde extérieur n'était pas un obstacle, car chaque homme porte en lui son désert. Après quoi, Orlando dit à l'homme de Dieu : Je possède en Toscane un mont très favorable pour tes frères, le mont Alverne, couvert de bois, écarté du monde. S'il te plaît, je te le donne à toi et à tes compagnons pour le salut de mon âme. » Rempli d'allégresse, François ne put qu'accepter. Dieu fait royalement les choses. François cherchait un lieu parfait pour la prière, et Dieu lui offre le mont Alverne. François aura sa montagne magique. De retour à la Portioncule, François fit part à ses frères de la donation providentielle qui mettait le comble à ses vœux de retraite. Cependant, il fallait explorer tant soit peu ce mont escarpé, et pour le moment, il ne s'en sentait pas la force. La maladie coupait son activité d'accès de faiblesse. Aussi envoya-t-il à sa place deux compagnons. Ceux-ci allèrent d'abord voir le seigneur Orlando pour l'informer de leur mission. Il leur adjoignit une cinquantaine d'hommes d'armes à toute fin utile, car dans cette solitude, les bêtes sauvages étaient toujours à craindre. Après de soigneuses recherches, ils arrêtèrent leur choix sur un plateau presque en haut du mont, et là, aidés par la troupe, bâtirent une hutte avec des branchages et prirent possession du mont Alverne au nom de Dieu. Ainsi François devenait, ô horreur, propriétaire. Y songea-t-il? On peut se le demander. Mais sans doute voyait-il la question autrement.